Vous êtes bien sur Radio Campus et vous écoutez Bruit de Chine sur le 106.6 jusqu'à 13h. J'ai rencontré par une belle journée d'été Marie-Laure de Rochebrune, conservatrice en chef en charge des porcelaines au château de Versailles, dans son bureau à deux pas du château. Nous avons évoqué l'exposition La Chine à Versailles dont elle est la commissaire. Une exposition qui raconte l'histoire des relations franco-chinoises au XVIIIe siècle à travers 150 objets, meubles, tableaux, lacs, porcelaines et tapisseries qui témoignent du goût français pour les productions artistiques chinoises. On écoute Marie-Laure de Rochebrune. Bonjour.
Bonjour.
Alors, ce sont les jésuites qui, au XVIIe siècle, inaugurent les relations entre la France et la Chine, et notamment un missionnaire flamand.
Oui, en réalité, il a un ancêtre dans cette aventure. C'est le fameux père Ricci, qui était un jésuite italien, qui est le premier jésuite à s'être introduit à la cour de Chine au temps de l'empereur Wanli. Mais ce jésuite a eu des successeurs tout au long du XVIIe siècle, et notamment un flamand, le père Couplet.
Alors, ce n'est pas une ambassade chinoise, mais siamoise donc, thaïlandaise, qui éveilla l'intérêt de la cour de France pour l'Extrême-Orient.
Alors, c'est vrai que la cour de France pensait que si elle prenait pied au Siam, c'est-à-dire dans la Thaïlande actuelle, elle pourrait un jour parvenir jusqu'en Chine. La Thaïlande était considérée comme le vestibule de la Chine au XVIIe siècle. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu tant de négociations avec la cour du Siam, qui se sont interrompus brutalement en 1688 avec la mort du roi du Siam, le roi Phranarai.
Alors, sans Louis XIV, l'histoire d'amour entre la Chine et la France n'aurait jamais commencé.
C'est tout à fait vrai. Le rôle de Louis XIV dans cette aventure est très important, puisque il a accepté la demande du père Couplet, qui était venu le voir pour lui demander d'envoyer à la fois des pères jésuites en France et puis un soutien financier. Et c'est vrai qu'il a accepté de se lancer dans cette entreprise et il a donné de l'argent et il a également accepté d'envoyer des jésuites en Chine pour répondre à la demande du père Couplet. Et alors ces jésuites, il ne les a pas envoyés en tant qu'ambassadeur officiel, mais ni en tant que jésuite, mais en tant que mathématicien du roi.
Quel rôle joue Colbert dans cette histoire ?
Alors, Colbert avait pensé beaucoup à envoyer des émissaires en Chine et il voulait d'abord faire du commerce avec la Chine. C'est la raison pour laquelle il avait créé la Compagnie des Indes en 1664. Mais la Compagnie des Indes orientale n'a commencé à commercer avec la Chine que très tard, qu'à partir de 1698-1700, donc bien après la mort de Colbert. Donc Colbert n'a jamais vu le résultat, l'aboutissement de ses travaux.
Et pourquoi ce commerce avec la Chine s'était fait si tard ?
Le commerce a rencontré beaucoup de difficultés. D'abord, la Compagnie des Indes elle-même a eu des difficultés à se mettre en place, à armer des vaisseaux, parce que c'était très coûteux. C'était une compagnie par action. Donc, il y avait des actionnaires, mais le président de la compagnie était le contrôleur général des finances. C'était une entreprise mixte. Et c'est un problème qu'on connaît actuellement dans l'économie française, c'est-à-dire une compagnie par action, mais fortement verrouillée par le pouvoir royal. Et les investisseurs hésitaient à mettre de l'argent dans cette nouvelle entreprise. Et c'est la raison pour laquelle on a eu beaucoup de mal à armer des navires pour la Chine. C'était une entreprise très, très coûteuse, qui paraissait un petit peu utopique, et d'où les difficultés de trouver des personnes qui investissent des capitaux dans cette entreprise.
C'est vrai qu'on a l'impression que rien n'a changé, parce que les Hollandais et les Anglais, eux, ils n'ont pas eu de problème pour investir dans leur compagnie des Indes. Que savait Louis XIV de la Chine dans les années 1684-1685 ?
Je pense qu'il savait assez peu de choses, mais qu'il a appris à connaître et il a beaucoup écouté ce qu'on lui a dit. Il a beaucoup écouté notamment ce fameux père Couplet qui est venu lui rendre visite à Versailles et il l'a tellement bien écouté qu'il a suivi sa proposition. Et puis par la suite, il a écouté d'autres pères qui sont revenus à Versailles, revenus de Chine, notamment le père Lecomte, le père Bouvet, qui lui ont raconté ce qui s'était passé en Chine. Et il avait des informations aussi par les lettres envoyées par les jésuites. Donc il s'y est intéressé et il a fait aussi en sorte que la bibliothèque royale s'enrichisse de livres chinois ou de livres sur la Chine. D'où un intérêt nouveau, mais c'était un sujet nouveau pour le roi.
Dans quelles circonstances l'empereur Kangxi entra-t-il en contact avec Louis XIV ?
Alors, Kangxi n'est jamais rentré en contact directement avec Louis XIV, mais Kangxi a entendu parler de Louis XIV, justement, par les jésuites français envoyés en Chine, et qui ont dû lui décrire la personnalité du roi. Mais ils ne se sont jamais écrits l'un l'autre, ils n'ont jamais correspondu entre eux. Il n'était pas question que l'empereur de Chine quitte la Chine, bien sûr, pour venir en Europe. Il n'était pas question que le roi de France quitte la France non plus. Donc, mais chacun d'eux a entendu parler de l'autre, et chacun, je pense, a été assez impressionné par la personnalité de l'autre et par des préoccupations proches et communes. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est de penser que si loin géographiquement l'un de l'autre, eh bien, ils avaient tous les deux à cœur la protection des arts dans leur pays. La protection des sciences également, des deux sujets principaux qui les préoccupaient tous les deux. Et ça, c'est quelque chose qui a été remarqué par les jésuites qui sont allés en Chine, notamment le père Bouvet qui est allé en Chine, qui est revenu en France à la demande de l'empereur Kangxi pour recruter de nouveaux jésuites et qui a publié un livre à son retour qui s'appelle Le portrait historique de l'empereur de Chine. Et il dresse un parallèle entre Kangxi et Louis XIV qui est très éclairant et qui montre ses intérêts communs des deux souverains. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait passionnant.
Et chacun avait le portrait l'un de l'autre.
Oui, en plus. Alors, il est tout à fait vrai que le portrait de Kangxi était connu par les publications des jésuites parce que la publication du père Bouvet, notamment, était illustrée par un portrait gravé de l'empereur Kangxi. Et Kangxi lui-même a reçu des portraits peints à l'huile de Louis XIV et de certains membres de la famille royale emportés par les jésuites en Chine. Donc il était très surpris d'ailleurs par ces portraits peints à l'huile, qui était une technique qui n'était pas connue en Chine. Mais on a des lettres des jésuites disant l'intérêt de l'empereur pour ces portraits.
Alors Kangxi avait besoin d'un astronome émérite, mais pourquoi fait-il appel à la France ?
Alors Kangxi, ce n'est pas lui qui directement fait appel à la France, c'est le père Couplet. Et sur les conseils du père Verbiest, qui était le président du bureau impérial d'astronomie, qui était également flamand. Et ces deux pères s'étaient rendus compte que dans les années 1660, la science de l'astronomie était à son niveau le plus élevé à cette époque-là en France. C'est-à-dire que au début du XVIIe siècle, en Europe, les grands astronomes étaient en Italie, étaient à Rome, et étaient professeurs, par exemple, au Collège romain, au Collège jésuite de Rome. Dans les années 1660, je dirais que la géographie de la science a changé. Les deux grands pôles scientifiques en matière d'astronomie, c'est l'Angleterre et la France. Alors, pas question d'aller en Angleterre protestante, mais donc il reste la France. Il faut penser qu'en 1666, Louis XIV a fondé l'Observatoire de Paris, l'année suivante l'Académie des sciences de Paris, et il y a un enseignement des sciences de très grande qualité à Paris dans les collèges jésuites. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est adressé à des jésuites français.
Alors au XVIIe siècle, la Chine est fermée aux étrangers, et pour aller à Pékin, c'est une véritable aventure. Il faut débarquer à Macao, voire au Siam ou en Cochinchine, et presque finir en clandestin. Alors ça n'a arrêté aucun jésuite.
Non, les jésuites ne se sont pas laissés impressionner par ces difficultés. Le premier à donner l'exemple, c'est le père Ricci. Le père Ricci, quand il est arrivé en Chine, il s'est présenté comme un moine, comme un moine bouddhiste. C'est-à-dire vêtu très simplement avec la robe des moines bouddhistes. Et il a été l'objet de railleries, il a été très critiqué par les personnes qu'il a rencontrées. Donc il a mis au point ce qu'on appelle la méthode Ricci, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que s'il voulait impressionner l'empereur, ou en tout cas être écouté par l'empereur et l'entourage de l'empereur, il fallait non pas arriver en Chine sous l'apparence d'un pauvre moine bouddhiste, mais d'un lettré ou d'un mandarin chinois. Et d'où ce costume extraordinaire que les jésuites présents en Chine ont pris et qu'on voit très bien sur la pièce de tapisserie qui est dans la première salle de l'exposition, un costume de lettré chinois. Et alors les jésuites se laissaient pousser une longue barbe qui impressionnait beaucoup les Chinois qui n'avaient pas de barbe. Et grâce à cela, et avec en plus leur connaissance en matière d'astronomie et de mathématiques, ils ont réussi à s'introduire à la cour et à intéresser l'empereur.
C'est sur son budget personnel que Louis XIV finance la première expédition scientifique française en Chine. Nous sommes donc en 1685. Et il y a deux bateaux qui partent, l'Oiseau et la Maligne. Et qui a-t-il à leur bord ?
Alors, il y a six pères jésuites. Finalement, cinq seulement arriveront en Chine, puisque l'un d'entre eux, les bateaux font escale au Siam, et l'un d'entre eux, le père Tachard, va rester au Siam. Et les cinq autres vont parvenir en Chine. Certains y resteront jusqu'à la fin de leur vie, d'autres reviendront en France, notamment pour recruter d'autres pères jésuites à la demande de l'empereur Kangxi.
Il faut dire quand même que cette expédition mettra trois ans pour rejoindre Pékin.
Alors, il faut penser que la durée de voyage habituelle à cette époque-là est d'environ six mois pour la Chine. Le voyage a été très long parce qu'ils se sont arrêtés au Siam et on attendait des vents meilleurs pour repartir. Enfin, il y a eu des difficultés, il y a eu des obstacles. Il y a eu un nombre de circonstances très particulières qui ont fait que ce voyage a été spécialement long. Mais habituellement, on mettait tout de même moins de trois ans pour arriver en Chine.
Alors, 1685, première expédition, je dirais scientifique. Une autre date importante, c'est 1698 et le départ de La Rochelle pour la Chine de l'Amphitrite.
Absolument, et qui part d'ailleurs avec des jésuites à son bord. Et parce que l'empereur Kangxi avait renvoyé en France le père Lecomte, à charge pour ce père de recruter de nouveaux jésuites, parce que l'empereur avait le souhait de renforcer le bureau impérial d'astronomie. Les jésuites avaient fait la preuve de leur connaissance en matière d'astronomie, donc il pensait qu'il fallait étoffer cette équipe, si vous voulez.
Quelles sont en France les conséquences de cette sinomania de Louis XIV ?
Alors, elle s'accompagne d'un goût pour les objets chinois. Alors, les objets chinois sont parvenus en France avant le règne de Louis XIV. Il y a déjà, on sait que les premières porcelaines de Chine dans les collections royales sont mentionnées, par exemple, dans un inventaire de François Ier. Donc, dès le XVIe siècle, on sait qu'il y a des porcelaines de Chine en France. Au XVIIe siècle, cela va s'accroître sous le règne de Louis XIII et quelqu'un comme Richelieu, par exemple, possédait une importante collection de porcelaine de Chine. Mazarin, lui, avait des objets en lac de Chine ou du Japon. Mais c'est vrai que le goût pour les objets chinois va s'intensifier dans la seconde moitié du XVIIe siècle et plusieurs éléments vont contribuer à ce goût. Alors, l'ambassade du Siam, dont vous parliez tout à l'heure, a été très importante à ce domaine parce que quand les ambassadeurs du Siam sont arrivés à Versailles en 1686, ils étaient munis d'une quantité astronomique de cadeaux à destination du roi et de la famille royale. Il y avait par exemple 1500 pièces de porcelaine de Chine pour le roi. Donc, il n'y avait pas seulement des objets chinois, il y avait des objets qui venaient du Siam et d'autres pays d'Asie, il y avait des objets japonais aussi, mais il y avait une grande majorité d'objets chinois. Donc, ça a attisé, si vous voulez, le goût pour la Chine. Et puis, il y a des marchands merciers qui ont commencé dans les années 1670-1680 à se spécialiser dans la vente d'objets chinois. Et on allait chiner chez ces marchands. Et on utilisait le terme, ces marchands vendaient du lachinage ou de la Chine en un mot. Ce sont des termes qui étaient rentrés dans la langue parlée, qui montrent l'importance de ces objets chinois.
Et le mot chiner est resté. Le Trianon de porcelaine, malheureusement disparu de Levaux, est peut-être le meilleur exemple de ce goût pour la Chine qui envahira tous les arts.
Alors, c'est le premier exemple, effectivement malheureusement disparu, d'influence de la Chine sur l'architecture et l'art des jardins à Versailles, puisque ce petit bâtiment a été construit par Louis Levaux pour Louis XIV et Madame de Montespan en 1670. Et bien sûr, son plan n'est pas du tout chinois. Mais ce qui est chinois, ce qui est supposé être chinois dans cette construction, c'est le fait que les murs sont revêtus de carreaux de faïence bleue et blanche à l'imitation de la porcelaine de Chine. On sait qu'en 1670, on est incapable en France encore de faire de la porcelaine. Quelques années après, on va commencer à Rouen, plus tard à Saint-Cloud, à faire une porcelaine artificielle sans kaolin pour imiter la porcelaine chinoise. Mais on ne fera de la porcelaine à manière chinoise avec du kaolin en France qu'à partir des années 1770. Donc, en 1670, il n'y a pas de porcelaine en France. Donc, on va utiliser des carreaux de faïence, alors de plusieurs manufactures, de Rouen, de Nevers, de Delft, de Lisieux. Et certains fragments de ces carreaux ou des vases qui ornaient les fêtages du Trianon de porcelaine ont été retrouvés en fouille au début du XXe siècle et sont présentés à l'exposition.
Alors, le modèle du Trianon de porcelaine se trouve à Nankin, mais ni les architectes ni les artisans n'étaient allés à Nankin. Où puissent-ils leur inspiration ?
Alors, la pagode de Nankin, dont les 9 toits successifs superposés étaient revêtus de panneaux de porcelaine de Chine, était connue par une gravure qui a été publiée dans un livre qui a eu beaucoup de succès, publié en 1665 par un marchand hollandais, Johan Nieuwhoff, qui avait accompagné la Compagnie des Indes orientales néerlandaises, la célèbre VOC, qui était parvenue en Chine dans l'un des bateaux de cette Compagnie des Indes. À ce moment-là, la Compagnie des Indes néerlandaises détenait le monopole du commerce avec la Chine. Et vous me parliez tout à l'heure de la création de la Compagnie des Indes française par Colbert. Un des objectifs de Colbert, c'était justement de concurrencer et d'entrer en compétition avec cette Compagnie des Indes. Et alors, pour revenir à Nieuwhoff donc, était un marchand qui avait embarqué sur un bateau de la Compagnie des Indes hollandaise et qui, à son retour de Chine, a publié une description de la Chine qui a eu beaucoup de succès, qui a été publiée à Leyde, aux Pays-Bas, et dès la même année, en 1665, également en France, dans une version française. Et c'était un ouvrage qui était très illustré, avec de nombreuses gravures, et il y avait une gravure qui représentait la pagode de Nankin. Donc l'image de la pagode était connue en France dès 1665.
Voilà, pas la peine de voyager, les gravures suffisaient. Alors les fils de Louis XIV seront aussi passionnés par la Chine que leur père.
Alors il y a un fils de Louis XIV en particulier, qui est le duc d'Humaine. Le duc d'Humaine, c'est un des fils légitimés de Louis XIV et de Madame de Montespan, et il était présent le jour de la venue du père Couplet à Versailles, lorsque le père Couplet est venu en compagnie d'un jeune chinois, et il a été passionné par ce que le père Couplet a raconté de la cour de Chine, et il a souhaité aider la mission jésuite en Chine, et il a même offert un instrument scientifique d'astronomie au père Couplet, et qui a été ensuite donné à l'empereur de Chine. Et puis, il a même financé, lui aussi, sur sa cassette personnelle, l'envoi des jésuites français en Chine. Donc, il s'est toujours beaucoup intéressé à cette mission jésuite en Chine.
On peut dire que le XVIIIe siècle, c'est vraiment l'âge d'or de l'idylle franco-chinoise.
Oui, alors, il faut penser... Je dirais même que cet âge d'or se situe au tournant du siècle, c'est-à-dire qu'avant que les difficultés n'apparaissent. Il faut penser que la présence de ces jésuites tellement bien accueilli par l'empereur Kangxi, a abouti à la reconnaissance du christianisme comme une religion tolérée en Chine par l'empereur Kangxi. Par ailleurs, l'empereur Kangxi a donné aux jésuites français présents en Chine des missions, notamment des missions diplomatiques qui sont assez peu connues. C'est vrai que là, c'est vraiment l'âge d'or des relations diplomatiques. Les choses vont se gâter au début du XVIIIe siècle sur le plan diplomatique, parce que le succès des missions jésuites en Chine a suscité des jalousies et des controverses. Jalousies d'autres congrégations qui tentaient de pénétrer en Chine, controverses parce que cet envoi de jésuites à la cour de Chine sans l'autorisation expresse du pape ou du roi du Portugal qui était chargé des missions en Extrême-Orient a évidemment fortement déplu à certaines personnes. Et on s'est inquiété, les autres congrégations religieuses surtout s'inquiétaient de la souplesse que montraient les jésuites dans leur entreprise d'évangélisation. Les jésuites pensaient, d'abord, avaient une optique très particulière. Ils pensaient qu'il fallait d'abord évangéliser les élites et qu'après, le peuple chinois se convertirait. Ce n'était pas du tout l'optique, par exemple, des missions étrangères de Paris qui, au contraire, voulaient évangéliser le menu peuple, comme on disait au XVIIe siècle, et pensait que ensuite le christianisme se répandrait dans le reste de la société. Donc deux optiques très différentes. Par ailleurs, les jésuites avaient accepté d'apprendre le mandarin, ils avaient appris aussi le mandchou, puisque la nouvelle dynastie était mandchou, et ils pensaient qu'on ne convertirait pas les Chinois si on ne leur accordait pas quelques concessions, notamment le fait de conserver le culte des ancêtres, l'intérêt pour Confucius. Et c'est quelque chose qui a été très mal compris par les Occidentaux et par la papauté, ce qui fait que le pape, vers 1704, envoie un légat en Chine qui s'appelle le cardinal de Tournon pour voir un petit peu ce que font les jésuites en Chine. Et le cardinal de Tournon a été reçu très aimablement par l'empereur, mais le cardinal, très maladroit, a fait des reproches à l'empereur de Chine sur la façon dont les jésuites évangélisaient les Chinois. Alors évidemment, ces remarques ont complètement indisposé l'empereur Kangxi, et l'empereur Kangxi, du coup, qui était tellement tolérant à l'égard des chrétiens, s'est montré est devenu très sévère à leur égard. Alors il a gardé son admiration pour les jésuites, et il a gardé les jésuites présents à la cour, mais en revanche, il y a eu des difficultés, même des persécutions de chrétiens en Chine à partir des années 1710-1720.
Quel type d'objets Louis XIV, Louis XV et Louis XVI collectionnait-il ?
Alors, dans le domaine des objets chinois, je dirais que pour Louis XIV n'était pas passionné par la porcelaine de Chine, comme le seront plus tard Louis XV et Louis XVI. En revanche, il a eu notamment des pierres dures d'origine chinoise, des jades, et dans l'exposition, il y a une petite coupe en jade qu'il a achetée d'ailleurs aux héritiers de Mazarin. Mazarin avait été le principal ministre de son père, mais c'était aussi le parrain de Louis XIV. C'était un très très grand collectionneur, et il avait des collections remarquables, à la fois de peintures, de sculptures, mais d'objets d'art très importantes, et notamment de gemmes, c'est-à-dire de pierres dures, et dans lesquelles figuraient quelques pièces chinoises. Alors une partie des collections de Mazarin, après sa mort, a été léguée au roi, et une autre partie, revenue à ses héritiers, ses neveux, ont été vendues, et Louis XIV a racheté quelques objets lors de ses ventes, et notamment la coupe qui est présentée à l'exposition et qui appartient au musée Guimet, qui est une coupe en jade très ancienne du Moyen-Âge, mais vous savez que le jade qui est considéré comme une pierre semi-précieuse en Europe est considéré comme une pierre précieuse en Chine et est particulièrement difficile à travailler, et le jade blanc est particulièrement admiré.
Sur quels critères avez-vous choisi les objets qui figurent dans cette exposition La Chine à Versailles ?
Alors, les critères de choix ont été un peu stricts, c'est-à-dire que nous avons voulu vraiment évoquer d'abord l'intérêt de la famille royale, de Louis XIV à Louis XVI, pour les objets chinois, pour la Chine. Nous avons voulu évoquer l'influence de l'art chinois sur l'art français à la cour de France, dans les résidences royales. Nous avons voulu évoquer aussi cette présence française en Chine, ces relations diplomatique d'un genre un peu inédit qui s'est développé sous Louis XIV, mais qui a eu des prolongements jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, parce que, pour en revenir aux jésuites, les jésuites présents à la cour de Louis XIV, à la cour de Kangxi à l'époque de Louis XIV, ont eu des successeurs tout au long du XVIIIe siècle jusqu'à l'époque de la Révolution française, et même à l'époque où en Europe et en France la Compagnie de Jésus était supprimée, chassée, les jésuites présents à la cour de Chine n'ont eu aucun souci et sont restés actifs jusque dans les années 1790, et on a une correspondance importante de leur part qui atteste de ce fait. Alors, pour en revenir aux œuvres, nous avons donc choisi des œuvres qui étaient soit présentes à Versailles ou dans des résidences royales d'Île-de-France, comme par exemple le château de Marly, ou comme le château de Choisy, qui était très cher à Louis XV. Nous avons choisi de montrer des pièces, un très beau vase de porcelaine transformé en France par un bronzier français en fontaine à parfum, qui est la seule pièce de porcelaine de Chine ayant appartenu à Louis XIV, aujourd'hui bien identifié, et qui se trouvait à Versailles, tout près de la chambre du roi, dans le cabinet de la garde-robe. Donc, ce n'est pas toujours facile, parce que, les porcelaines de Chine qui ont appartenu à Louis XV, Louis XV était un grand amateur de porcelaine de Chine, mais ne sont plus identifiées, à l'exception de cette pièce. Donc, nous avons voulu être très stricts et ne pas montrer forcément des équivalents, mais montrer vraiment des objets réellement présents dans les collections royales.
Alors, ce sont les artisans français qui copient les modèles chinois et les adaptent à l'Occident. Et parfois aussi, nous commandons aux Chinois des objets dans un goût franco-chinois.
Oui, il y a plusieurs mouvements hein, qui ont lieu. D'abord, dans l'exportation, l'importation en France d'objets chinois a plusieurs conséquences. Soit les objets sont importés en France et conservés tels qu'ils sont. C'est le cas, par exemple, des papiers chinois qui ont eu un immense succès au XVIIIe siècle, qui servaient à garnir des cloisons, mais des paravents, des écrans de cheminée. Et il y en avait à Versailles dans les appartements intérieurs, il y en avait au Trianon, il y en avait dans les châteaux royaux. D'autres objets, comme les Pékin peints chinois, qui sont des soies peintes en Chine, ont été conservés aussi tels quels. Alors, ces objets ont pu susciter des imitations. C'est le cas des Pékin peints à Lyon. Il y a plusieurs manufactures qui se sont mises à copier ces soieries chinoises. Et on a fabriqué des Pékin peints en France. Et vous voyez, le mot Pékin est devenu un mot commun, un nom commun. Alors, il y a d'autres objets qui subissent des transformations, on peut dire. C'est le cas donc des porcelaines qui peuvent être, auxquelles on ajoute des montures et qui souvent, ces montures sont ajoutées pour magnifier ces objets, hein, parce qu'on considère que la matière de la porcelaine chinoise est tellement précieuse, tellement belle qu'il faut la magnifier, la mettre à l'honneur. Mais quelquefois, ces montures en bronze prennent une importance telle au XVIIIe siècle qu'elles transforment la fonction première de l'objet. Et c'est le cas de la fontaine à parfum Louis XV, qui à l'origine est un vase de Chine, ça, qui est un vase décoratif, et qui se transforme en objet utilitaire grâce à la monture dotée d'un robinet qui transforme cet objet en fontaine. Voilà. Et puis, il y a l'aspect inspiration, influence hein, de ces objets qui vont influencer des artistes français. Et l'artiste français le plus influencé par la Chine au XVIIIe siècle, c'est certainement François Boucher, qui était lui-même collectionneur d'objets chinois. Il avait des porcelaines de Chine, il avait des objets en lac chez lui. Donc, il vivait. Alors, bien sûr, Boucher va nous montrer une Chine très fantaisiste, un peu irréelle, mais peut-être pas tant que ça, parce qu'on voit souvent des objets peints dans les œuvres de Boucher qui sont des objets qui ont pu exister.
Oui, il les avait sous les yeux, en quelque sorte. Quelle trace durable laissa l'art chinois dans notre histoire de l'art ?
Oh, la trace est durable parce que tout au long du XIXe siècle, cette influence de l'art chinois se poursuit. Hein, et on a des salons chinois, des salons à la chinoise, encore sous le Second Empire en France. Hein, donc ce goût chinois, il va perdurer au XIXe siècle. Hein, et puis, le goût pour les beaux objets chinois, c'est-à-dire les porcelaines, les lacs, ne s'est jamais démenti tout au long du XXe siècle, est encore très vrai aujourd'hui. Et donc ça, c'est cette influence, elle est. Alors cette présence de la Chine est très réelle jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'interruption depuis cette époque-là.
Marie-Laure de Roche-Brune, merci.